Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Est-ce qu'il vous serait désagréable de nous parler de votre futur roman ?
Pas du tout.
Il ressemblera à quoi ?
À rien. Je voudrais y mettre ce que je vois, ce que je sais, tout ce que m'apprend la vie des autres et la mienne, sans faire de tri. J'invente un personnage central qui est romancier, et le sujet du livre, si vous voulez, c'est précisément la lutte entre ce que lui offre la réalité et ce que lui prétend en faire.
Ça peut pas faire de mal.
Pardonnez-moi, c'est par indiscrétion que je connais le titre de votre livre. Il me semble que ce titre annonce une histoire.
Allez, dis-nous ce titre.
Si tu veux, dites-leur, Bernard.
Les faux-monnayeurs. Dites-nous, ces faux-monnayeurs, qui sont-ils ?
Je n'en sais rien.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Monsieur, j'ai compris à la suite de certaines découvertes que j'ai faites par hasard cet après-midi que je dois cesser de vous considérer comme mon père. Et c'est pour moi un immense soulagement. En me sentant si peu d'amour pour vous, j'ai longtemps cru que j'étais un fils dénaturé. Je préfère savoir que je ne suis pas votre fils du tout. Peut-être estimez-vous que je vous dois la reconnaissance pour avoir été traité par vous comme un de vos enfants, mais d'abord j'ai toujours senti entre eux et moi votre différence d'égard, et puis tout ce que vous en avez fait, je vous connais assez pour savoir que c'était par horreur du scandale. Je préfère partir sans revoir ma mère, parce que je craindrais, en lui faisant mes adieux définitifs, de m'attendrir. Je doute que son affection pour moi soit bien vive. Comme j'étais le plus souvent en pension, elle n'a guère eu le temps de me connaître. Et comme ma vue lui rappelait sans cesse quelque chose de sa vie qu'elle aurait voulu effacer, je pense qu'elle me verra partir avec soulagement et plaisir. Dites-lui, si vous en avez le courage, que je ne lui en veux pas de m'avoir fait bâtard. Qu'au contraire, je préfère ça, à savoir que je suis né de vous. Excusez-moi de parler ainsi. Mon intention n'est pas de vous écrire des insultes. Mais ce que j'en dis va vous permettre de me mépriser et cela vous soulagera. Si vous désirez que je garde le silence sur les secrètes raisons qui m'ont fait quitter votre foyer, je vous prie de ne point chercher à m'y faire revenir. La décision que je prends est irrévocable. Je signe du ridicule nom qui est le vôtre, que je voudrais pouvoir vous rendre et qu'il me tarde de déshonorer. Bernard, profitant Dieu. Quelques jours avant de passer le bac, Bernard, lycéen de bonne famille, découvre par hasard qu'il est le fruit d'un amour adultère. Il décide alors de tout quitter et adresse à son père cette lettre sans appel. Tel est le point de départ du roman d'André Gide, « Les faux-monnayeurs », qui paraît en 1925. Le ton est donné « Jeunesse et transgression ». Transgression sexuelle notamment. Car comme dans Coridon et Si le grain ne meurt, qu'il publie à la même période, Gide évoque dans Les faux-monnayeurs des amours homosexuels et s'attire du même coup les foudres des conservateurs. Au-delà de ce thème, l'audace d'André Gide réside aussi dans la construction de son roman. Il superpose plusieurs histoires, joue avec la chronologie et multiplie les points de vue. Cette écriture moderne déroute plus d'un lecteur, mais Gide revendique ce foisonnement à l'image selon lui du désordre de la vie. Dans le journal qui accompagne l'écriture des faux-monnayeurs, il écrit, je le cite, « La vie nous présente de toutes parts quantité d'amorces de drames, mais il est rare que ceux-ci se poursuivent et se dessinent comme à coutume de les filer un romancier. Et c'est là précisément l'impression que je voudrais donner dans ce livre. » Pour nous orienter donc dans cet enchevêtrement d'intrigues, partons de Bernard que l'on vient de rencontrer. Tout comme son ami Olivier, il commence à choisir sa vie dans le Paris des années 20. Autour des deux lycéens gravitent toute une série de personnages, des écrivains émus par leur éclatante jeunesse, des parents déboussolés et des petits frères moins innocents qu'on croit. Découvrons donc ce soir les jeux d'influence qui relient ces individus et découvrons surtout l'hymne à la jeunesse que nous offre Gide dans ce très beau roman d'apprentissage. Assistons d'abord aux confidences nocturnes de Bernard et de son grand ami Olivier. Nous sommes à Paris, à deux pas du jardin du Luxembourg. Bernard et Olivier, tous deux fils de magistrats, préparent leur bac et se rêvent écrivains. Mais découvrant le secret de sa naissance, Bernard fugue du domicile familial. Et c'est chez le timide Olivier qu'il trouve refuge pour la nuit.
Tu m'as bien dit que tu couchais pas au même étage que tes parents.
Oui, pourquoi ?
Tu m'as dit que Georges couche là aussi.
Oui.
Et c'est Esther.
Qui ça?
Le petit.
S'il faut, oui. Pourquoi?
Écoute, je vais quitter la maison. Je sais pas encore où j'irai. Tu peux me recevoir pour une nuit?
Je viens pas avant 11h. Maman monte me dire adieu chaque soir, puis on ferme la porte à clé.
Alors?
J'ai une autre clé. Tu frapperas doucement pour ne pas réveiller Georges.
Nous voici dans la chambre de celui-ci. Tandis que son frère Georges semble dormir, on le retrouvera tout à l'heure à la fin du livre, Olivier guette l'arrivée de son intrépide ami. Olivier s'était mis au lit pour recevoir le baiser de sa mère qui venait embrasser ses deux derniers enfants dans leur lit tous les soirs. Il aurait pu se rhabiller pour recevoir Bernard, mais il doutait encore de sa venue et craignait de donner l'éveil à Georges, son jeune frère qui partageait la chambre. En entendant une sorte de grattement discret à la porte, Olivier bondit de son lit et courut ouvrir. Il serra Bernard dans ses bras. « Comme je t'attendais, je ne pouvais pas croire que tu viendrais. Tes parents savent que tu ne couches pas chez toi ce soir ?» Bernard regardait tout droit devant lui, dans le noir. Il haussa les épaules. « Tu trouves que j'aurais dû leur demander la permission, hein ?» Le ton de sa voix était si froidement ironique qu'Olivier sentit aussitôt l'absurdité de sa question. Il l'interroge. Quand Bernard compte-t-il rentrer? Jamais. Le jour se fait dans l'esprit d'Olivier. Il a grand souci de se montrer à la hauteur des circonstances et ne se laisser surprendre par rien. Pourtant, un « c'est énorme ce que tu fais là » lui échappe. Il ne déplaît pas à Bernard d'étonner un peu son ami. Il est surtout sensible à ce qui perce d'admiration dans cette interjection, mais il hausse de nouveau les épaules. Olivier lui a pris la main. Il est très grave. Il demande anxieusement « mais pourquoi t'en vas-tu ? » « Ah ça, mon vieux, c'est des affaires de famille. Je ne peux pas te le dire. » Et pour ne pas avoir l'air trop sérieux, il s'amuse, du bout de son soulier, à faire tomber la babouche qu'Olivier balance au bout de son pied, car ils se sont assis au bord du lit. « Alors où vas-tu vivre ?»«
Je ne sais pas. »«
Et avec quoi ?
On verra ça. »«
T'as de l'argent ?
De quoi déjeuner demain ?»«
Et ensuite ?»«
Ensuite, il faudra chercher. »«
Bah, je trouverai bien quelque chose. »«
Tu verras, je te raconterai. »
Olivier admire intensément son ami. Il le sait de caractère résolu. Pourtant, il doute encore. À bout de ressources et pressé par le besoin bientôt, ne va-t-il pas chercher à rentrer? Bernard le rassure. Il tentera n'importe quoi plutôt que de retourner près des siens.
Ton examen?
Ouais, c'est ça qui m'embête. Je voudrais tout de même pas le rater. Je crois que je suis prêt. C'est plutôt une question de ne pas être fatigué ce jour-là. Il faut que je me tire d'affaire très vite. C'est un peu risqué, mais je m'en tirerai, tu verras. Il reste un instant silencieux. La seconde babouche est tombée. Bernard, tu vas prendre froid, recouche-toi.
Non, c'est toi qui vas aller te coucher.
Tu plaisantes? Allons vite. Et il force Olivia à rentrer dans le lit défait.
Mais toi, où vas-tu dormir?
N'importe où, par terre, dans un coin. Il faut bien que je m'habitue.
Non, non, écoute, je veux te dire quelque chose, mais je ne pourrai pas si je ne te sens pas tout près de moi. Viens dans mon lit.
Et après que Bernard, qui s'est en un instant dévêtu, l'a rejoint, tu sais ce que je t'avais dit l'autre fois?
Ça y est, j'y ai été.
Bernard comprend à demi-mot. Il presse contre lui son ami qui continue.
Eh bien, mon vieux, c'est dégoûtant. C'est horrible.
Après, j'avais envie de cracher, de vomir, de m'arracher la peau, de me tuer.
Tu exagères.
Ou de la tuer, elle.
Qui était-ce? Tu n'as pas été imprudent, moi.
Non, c'est une gonzesse qu'un camarade connaît bien, à qui il m'avait présenté. C'est surtout sa conversation qui m'écœurait. Elle n'arrêtait pas de parler. Est-ce qu'elle est bête? Je comprends pas qu'on se taise pas à ces moments-là. J'aurais voulu la bâillonner, l'étrangler.
Mon pauvre vieux. Était-elle belle au moins?
Si tu crois que je l'ai regardée.
Tu es un idiot.
Tu es un amour.
Dormons.
Est-ce qu'au moins tu as bien...
Parbleu!
C'est bien ça qui me dégoûte le plus. C'est que j'ai pu tout de même. Tout comme si je la désirais.
Eh bien, mon vieux, c'était pas tant.
Tais-toi donc.
Si c'est ça l'amour, j'en ai soupé pour longtemps.
Quel gosse tu fais?
Bon, j'aurais voulu t'y voir.
Oh, moi, tu sais, je ne cours pas après. Je te l'ai dit. J'attends l'aventure. Comme ça, froidement, ça ne me dit rien.
Dormons.
Et brusquement, Bernard tourne le dos, s'écartant un peu de ce corps dont la chaleur le gêne.
Plus encore que la beauté, la jeunesse m'attire. Et dans l'irrésistible attrait. Je crois que la vérité est en elle.
André Gide.
Je crois qu'elle a toujours raison contre nous. Je crois vrai, tragiquement vraie cette phrase d'Alfred de Vigny, souvent citée. Une belle vie, c'est une pensée de la jeunesse réalisée dans l'âge mûr.
Moi, mon souvenir le plus sincère se trouve au fond d'une mélodie que jouait un type un peu solitaire et qui s'en est allé depuis. Je vois l'image encore entière de quand nous étions réunis. Tu voulais voir d'autres lumières et j'en avais envie aussi. Et tous les gens regardaient vers la mer. On s'en ira, ça n'est qu'un geste à faire. Par les chemins qu'on a suivis, de la nuit sombre jusqu'au matin clair, et j'en avais envie aussi.
Derrière ces confidences bravaches, Olivier dissimule d'inavouables désirs. Au matin, tandis que Bernard a filé sans crier gare, il brave sa timidité pour aller au-devant de son oncle Édouard qui rentre d'Angleterre. Olivier et Édouard, son oncle, se connaissent peu, mais sont secrètement amoureux l'un de l'autre. Romancier sans grand succès, Édouard travaille à un nouveau livre intitulé « Les faux-monnayeurs ». Il rentre à Paris à la demande d'une amie chère, Laura Douvier, qui lui a confié sa détresse. Mariée depuis peu, elle se trouve enceinte d'un amant qui l'a quittée. Apprenant le retour de cet oncle adoré, Olivier lui fait la surprise de l'attendre à la gare Saint-Lazare. Mais trop pudiques pour s'avouer leur joie de se revoir, les deux personnages laissent malgré eux grandir les malentendus. Olivier s'était persuadé que peut-être Édouard trouvait sa présence importune. Loin de lui dire l'empressement qu'il avait mis à venir à sa rencontre, il crut judicieux de parler de quelques courses que précisément il avait eu à faire dans le quartier ce matin même, comme pour s'excuser d'être venu. Il n'eut pas plutôt menti qu'il rougit. Édouard surprit cette rougeur et comme d'abord il avait saisi le bras d'Olivier d'une étreinte passionnée, il crut par scrupule également que c'était son geste qui le faisait rougir. Édouard avait dit d'abord « Je m'efforçais de croire que tu ne serais pas là, mais au fond j'étais sûr que tu viendrais. » En l'entendant répondre d'un air dégagé « J'avais justement une course à faire dans ce quartier. » Il lâcha le bras d'Olivier et son exaltation tout aussitôt retomba. Olivier, craignant d'ennuyer Édouard, se taisait. Il regardait Édouard et s'étonnait d'un certain tremblement de sa lèvre, puis aussitôt baissait les yeux. Édouard, tout à la fois, souhaitait ce regard et craignait qu'Olivier ne le jugeât trop vieux. Il roulait nerveusement entre ses doigts un bout de papier. C'était le bulletin qu'on venait de lui remettre en échange de ses bagages, mais il n'y faisait pas attention.
Si c'était son bulletin de consigne, se disait Olivier en le lui voyant froisser ainsi puis jeter distraitement, il ne le jetterait pas ainsi. Et il ne se retourna qu'un instant pour voir le vent emporter ce bout de papier loin derrière eux sur le trottoir. S'il avait regardé plus longtemps, il aurait pu voir un jeune homme le ramasser. C'était Bernard, qui depuis leur sortie de la gare les suivait. Cependant, Olivier se désolait de ne rien trouver à dire à Édouard, et le silence entre eux lui devenait intolérable. « Quand nous arriverons devant le lycée Condorcet, se répétait-il, je lui dirai à présent il faut que je rentre, au revoir. » Puis devant le lycée, il se donna jusqu'au coin de la rue de Provence. Mais Édouard, à qui ce silence pesait également, ne pouvait admettre qu'il se quittasse ainsi. Il entraîna son compagnon dans un café. Peut-être le porto qu'on leur servit les aiderait-il à triompher de leur gêne. Ils trinquèrent. « À tes succès, » dit Édouard en levant son verre. « Quand est l'examen ?»« Dans 10 jours. » « As-tu bien travaillé ?»« Pas mal. Pas si bien que j'aurais pu. » »« Les bons travailleurs ont toujours le sentiment qu'ils pourraient travailler davantage, » dit Édouard sentencieusement. Il avait dit cela malgré lui, puis aussitôt avait trouvé sa phrase ridicule. « Fais-tu toujours des vers ?»« De temps en temps, j'aurais grand besoin de conseils. » Il levait les yeux vers Édouard. C'est de vos conseils qu'il voulait dire, de tes conseils. Et son regard, à défaut de la voix, le disait si bien qu'Édouard crut qu'il disait cela par déférence ou gentillesse. Mais quel besoin eut-il de répondre, et avec tant de brusquerie ? « Oh, les conseils, il faut savoir se les donner à soi-même ou les chercher auprès des camarades. Ceux des aînés ne valent rien. » Olivier pensa, « Je ne lui en ai pourtant pas demandé, pourquoi proteste-t-il » Chacun d'eux, sentant la gêne et l'agacement de l'autre, s'en croyait l'objet et la cause. De tels entretiens ne peuvent donner rien de bon si rien ne vient à la rescousse. Rien ne vint. Olivier s'était mal levé ce matin. La tristesse qu'il avait eue à son réveil de ne plus voir Bernard à son côté, de l'avoir laissé partir sans adieu, cette tristesse, un instant dominée par la joie de retrouver Édouard, montait en lui comme un flot sombre, submergeait toutes ses pensées. Il eût voulu parler de Bernard, raconter à Édouard tout et je ne sais quoi, l'intéresser à son ami. Il se taisait. Il sentait ses traits se durcir. Il eût voulu se jeter dans les bras d'Édouard et pleurer. Édouard se méprenait à ce silence, à l'expression de ce visage contracté. Il aimait beaucoup trop pour ne point perdre toute aisance. À peine s'il osait regarder Olivier qu'il eût voulu serrer dans ses bras et dorloter comme un enfant. Et quand il rencontrait son regard morne, « C'est cela, pensait-il, je l'ennuie, je le fatigue, je l'excède, pauvre petit. Il n'attend qu'un mot de moi pour partir. » Et ce mot, irrésistiblement, Édouard le dit par pitié pour l'autre. « À présent, tu dois me quitter. Tes parents t'attendent pour déjeuner, j'en suis sûr. » Olivier, qui pensait de même, se méprit à son tour. Il se leva précipitamment, tendit la main. Du moins, voulait-il dire à Édouard, « Quand vous reverrai-je ? Quand est-ce qu'on se revoit ?» Édouard attendit cette phrase. Rien ne vint qu'un banal « Adieu. »
Ce n'est que lorsqu'il ne me voit pas que j'ose le contempler à loisir. Je le suis parfois dans la rue, sans qu'il le sache.
Où vas-tu si vite ?
Oh, nulle part. Je n'ai jamais l'air si pressé que quand je n'ai rien à faire.
Ouvrons à présent le journal d'Édouard pour découvrir un autre fil de l'histoire. Après ses retrouvailles manquées avec Olivier, Édouard profite de son retour à Paris pour rendre visite à son ancien professeur de piano, Monsieur de la Pérouse. Ce vieil homme et sa femme ont perdu leur fils unique depuis plusieurs années et ne se supportent plus. Amer, le professeur a confié quelque temps plus tôt à Édouard son intention de se suicider. Une seule perspective l'anime encore, l'existence de son petit-fils Boris, désormais adolescent, qu'il n'a jamais rencontré. Voici donc, consigné par Édouard, le récit de cette visite singulière qui porte les germes du drame à venir. Visite au vieux La Pérouse. C'est Madame de La Pérouse qui est venue m'ouvrir, usant de sa surdité pour répondre sans que je l'ai questionné. Mais non, vous ne me dérangez pas du tout. Entrez seulement. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir vous parler un instant seul à seul. L'état de Monsieur de La Pérouse, pour qui je connais votre vieille et fidèle amitié, m'inquiète beaucoup. Et elle entra là-dessus dans des récriminations infinies. Tandis qu'elle poursuivait ses doléances, la porte du salon s'ouvrit doucement derrière elle, et La Pérouse, sans qu'elle l'entendît, fit son entrée. Aux dernières phrases de son épouse, il me regarda en souriant ironiquement. Puis avec une impatience, une brutalité même, dont je ne l'aurais pas cru capable. « Alors, madame, vous devriez comprendre que vous fatiguez monsieur avec vos discours. Ce n'est pas vous que mon ami venait voir. Laissez-nous. » La vieille alors a protesté que le fauteuil sur lequel elle était assise était à elle et qu'elle ne le quitterait pas. « Dans ce cas, reprit La Pérouse en ricanant, si vous le permettez, c'est nous qui sortirons. » J'ai ébauché un salut gêné et l'ai suivi dans la pièce voisine. « Je suis heureux que vous ayez pu l'entendre, » m'a-t-il dit. « Eh bien, c'est comme cela tout le long du jour. Je suis dans l'admiration des reproches qu'elle me fait. Ainsi, lorsqu'elle souffre de sa sciatique, je la plains. Alors elle m'arrête, elle hausse les épaules. « Ne faites donc pas semblant d'avoir du cœur. Et tout ce que je fais ou dis, c'est pour la faire souffrir. Oh, cela ne pourra plus durer longtemps. Mais écoutez, » il m'a saisi le bras et baissant la voix. « J'ai pris mes mesures. Les quelques leçons de piano que je donne encore ne me rapportent presque plus. Alors j'ai pris une résolution. Ce sera dans un petit peu plus de 3 mois. Oui, j'ai marqué la date. Si vous saviez quel soulagement j'éprouve à songer que chaque heure désormais m'en rapproche. » Il se pencha plus encore. « J'ai également mis de côté un titre de rente. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je ne pouvais pas faire plus. Madame de la Pérouse ne le sait pas. Puis-je compter sur vous pour m'aider? Je ne connais rien aux affaires, mais un notaire à qui j'ai parlé m'a dit que la rente pourrait être versée directement à mon petit-fils jusqu'à sa majorité, et qu'alors il entrerait en possession du titre. J'ai pensé que ce ne serait pas trop demander à votre amitié de veiller à ce que cela soit exécuté. Et même si vous vouliez me tranquilliser, vous accepteriez de prendre aussitôt avec vous cette enveloppe, oui, n'est-ce pas ? » Il sortit en trottinant selon son habitude et reparut avec une grande enveloppe à la main. J'y jetai les yeux et lus au-dessus de mon nom en caractère calligraphié « À ouvrir après ma mort. Mettez-la vite dans votre poche, que je la sache en sûreté. » Toute protestation de ma part eût été superflue et je me contentai de serrer fortement la main qu'il abandonna dans la mienne. Ses yeux brillaient d'un étrange éclat. Dans l'autre main, il gardait un autre papier. « J'ai inscrit ici l'adresse de mon petit-fils. Ça se fait. Connaissez-vous cela ? C'est en Suisse. J'ai cherché sur la carte, mais je n'ai pu trouver. Est-ce que c'est très loin ? Pas si loin que je n'y puisse aller, peut-être. Quoi, vous feriez cela ? Oh, que vous êtes bon, dit-il. Pour moi, je suis trop vieux. Pourtant, il me semble que je... » Il hésita, cherchant le mot, reprit... « Que je m'en irais plus facilement si seulement j'avais pu voir mon petit-fils. » »« Mon pauvre ami, tout ce qu'il est humainement possible de faire pour vous l'amener, je le ferai. Vous verrez le petit Boris, je vous le promets. » Une fois ces différentes scènes posées, Gide s'applique à brouiller les pistes. Reprenons l'intrigue quelque temps plus tôt et retrouvons Bernard au lendemain de sa fugue familiale. Désœuvré, le lycéen observe de loin les retrouvailles de son ami Olivier et d'Edouard et ramasse, souvenez-vous, le billet de consigne que ce dernier jette distraitement. Cédant à la curiosité, Bernard, grâce à ce billet, récupère la valise d'Edouard à la gare. Il parcourt ainsi le journal intime de l'oncle adoré d'Olivier et s'émeut de la détresse de Laura Douvier, dont l'amant coupable n'est autre que Vincent, le frère aîné d'Olivier. Avide d'aventure, Bernard se présente le jour même à Laura et Edouard pour leur offrir ses services.
Puis-je vous demander, monsieur, quand il me sera permis de retrouver mes affaires ?
Mais quand vous voudrez, monsieur, il faut que je vous explique. Depuis hier, je suis sans logis, sans famille et prêt à me jeter à l'eau si je ne vous avais pas rencontré. Je vous ai suivi ce matin quand mon ami Olivier est venu vous chercher à la gare. Il m'avait parlé de vous. Je cherchais un moyen de vous aborder. Quand vous avez perdu votre bulletin de consigne, j'ai béni ma chance. Si j'ai levé votre valise, c'était surtout pour entrer en rapport.
Et maintenant ?
Et maintenant, vous n'avez pas besoin d'un secrétaire ?
Édouard propose alors à Bernard de les accompagner, Laura et lui, à Sassefay, où il compte chercher Boris, le petit-fils de la Pérouse. Quelques jours après leur arrivée en Suisse, Bernard adresse une lettre pleine d'enthousiasme à Olivier, resté à Paris. Il ne se doute pas de la douloureuse jalousie que ces nouvelles vont éveiller chez son ami. Cher vieux, que je dise d'abord que j'ai séché le bachot. Tu l'auras compris sans doute en ne m'y voyant pas. Je me présenterai en octobre. Une occasion unique s'est offerte à moi de partir en voyage. J'ai sauté dessus. Et je ne m'en repens pas. Il fallait se décider tout de suite. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir, pas même de dire adieu. À ce propos, je suis chargé de t'exprimer tous les regrets de mon compagnon de voyage d'être parti sans te revoir. Car sais-tu qui m'emmenait ? Tu le devines déjà. C'est Edouard. C'est ton fameux oncle que j'ai rencontré le soir même de son arrivée à Paris dans des circonstances assez extraordinaires et sensationnelles. Imagine-toi que cette pauvre femme abandonnée par ton grand frère Vincent se trouve être une grande amie d'Edouard. Tu sais déjà qu'elle venait de se marier. Tu sais peut-être que peu de temps après son mariage, elle est tombée malade et qu'elle est allée se soigner dans le Midi. C'est là qu'elle a fait la connaissance de ton frère.
Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette rencontre a eu des suites. Oui, mon vieux. Ton sacré maladroit de frère lui a fait un enfant. Elle est revenue enceinte à Paris où elle n'a plus osé reparaître devant ses parents. Encore moins osait-elle rentrer au foyer conjugal. Cependant, ton frère l'a plaquée dans les conditions que tu sais. Laura Douvier n'a pas eu un mot de reproche et de ressentiment contre lui. Au contraire, elle invente tout ce qu'elle peut pour excuser sa conduite. Bref, c'est une femme très bien, une tout à fait belle nature. Et quelqu'un qui est décidément très bien aussi, c'est ton oncle Édouard. Comme Laura ne savait plus que faire ni où aller, il lui a proposé de l'emmener en Suisse. Et du même coup, il m'a proposé de les accompagner parce que cela le gênait de voyager en tête à tête avec elle, vu qu'il n'a pour elle que des sentiments d'amitié. Nous voici donc partis tous les trois. Oui, mon vieux, tu ne m'avais pas menti. Ton oncle est un type épatant. Quant à Laura, ah mon ami, quelle femme admirable, je ne me sens plus le même qu'avant de l'avoir connue, et il y a des pensées que je n'ose plus formuler, des mouvements de mon cœur que je réfrène parce que j'aurais honte de ne pas être digne d'elle. Tu vas croire que je suis amoureux d'elle, et bien mon vieux, tu ne te tromperais pas. C'est fou, n'est-ce pas? Me vois-tu amoureux d'une femme enceinte que naturellement je respecte et n'oserais toucher du bout du doigt? Quand nous sommes arrivés à Saas-Fee, l'hôtel n'a pu nous offrir que deux chambres, une grande à deux lits et une petite, qu'il a été convenu devant l'hôtelier que je prendrais, car pour cacher son identité, Laura passe pour la femme d'Édouard. Mais chaque nuit, c'est elle qui occupe la petite chambre et je vais retrouver Édouard dans la sienne. Chaque matin, c'est tout un trimballement pour donner le change au domestique. Je n'ai pas beaucoup travaillé et pas ouvert un livre depuis mon départ, mais beaucoup réfléchi. La conversation d'Édouard est d'un intérêt prodigieux. Il ne me parle pas beaucoup directement, bien qu'il affecte de me traiter en secrétaire, mais je l'écoute causer avec les autres, avec Laura surtout, à qui il aime raconter ses projets. Tu ne peux pas te rendre compte de quel profit cela est pour moi. Certains jours, je te souhaite éperdument, je me dis que c'est toi qui devrais être ici. Mais je ne puis regretter ce qui m'arrive, ni souhaiter y rien changer. Mais dis-toi bien que je n'oublie pas que c'est grâce à toi que je connais Édouard et que je te dois mon bonheur. Quand tu me reverras, je crois que tu me trouveras changé. Mais je ne demeure pas moins et plus profondément que jamais ton ami. Bernard. Bernard était beaucoup trop spontané, trop naturel, trop pur. Il connaissait trop mal Olivier pour se douter du flot de sentiments hideux que cette lettre allait soulever chez celui-ci. Une sorte de raz-de-marée où se mêlaient du dépit, du désespoir et de la rage. Il se sentait à la fois supplanté dans le cœur de Bernard et dans celui d'Édouard. L'amitié de ses deux amis évinçait la sienne. Une phrase surtout de la lettre de Bernard le torturait, que Bernard n'aurait jamais écrite s'il avait pressenti tout ce qu'Olivier pouvait y voir. « Dans la même chambre », se répétait-il. Et l'abominable serpent de la jalousie se déroulait et se tordait en son cœur. Son cerveau s'emplissait de visions impures qu'il n'essayait même pas de chasser. Il n'était jaloux particulièrement ni d'Édouard ni de Bernard, mais des deux. Les démons de l'enfer l'habitèrent.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Vous avez toutes les qualités de l'homme de lettres. Vaniteux, hypocrite, égoïste.
Vous me comblez.
Oui, c'est charmant. Mais vous ne ferez jamais un bon romancier.
Parce que ?
Parce que vous ne savez pas écouter.
Tandis que Bernard s'épanouit sous la tutelle bienveillante d'Edouard, Olivier se place alors sous dangereuse influence. Meurtri par la jalousie, le jeune homme accepte l'offre de vacances de Robert de Passavant, un personnage sans scrupules qui cherche à le séduire.
Aujourd'hui, j'ai quelque chose de précis à vous dire.
Vous voulez bien que je vous appelle Olivier ?
Olivier, permettez-moi de vous dire que j'ai plus confiance dans votre goût qu'en celui de Sidi Durmer. Accepteriez-vous d'assumer cette direction littéraire ?
Mon examen ?
La revue ne paraîtra pas tout de suite. Mais il faudrait tenir plusieurs numéros, tout préparer avant octobre. Et il serait nécessaire de beaucoup nous voir cet été pour en parler.
Au milieu des paysages enchanteurs de la Corse, il se laisse amadouer par le charisme de son nouveau mentor. Découvrons la réponse d'Olivier tout en faux-semblant au courrier de Bernard. Le jeune homme s'efforce de masquer son dépit amoureux et son orgueil blessé. Cher vieux, que je te dise d'abord que j'ai bien passé mon bachot, mais ceci n'a pas d'importance. Une occasion unique s'offrait à moi de partir en voyage. Je balançais encore, mais après lecture de ta lettre, j'ai sauté dessus. Sache que c'est le rédacteur en chef de la nouvelle revue Avant-Garde qui t'écrit. Après quelques délibérations, j'ai accepté d'assumer ces fonctions dont le comte Robert de Passavant m'a jugé digne. Nous commencerons à paraître en octobre. Tâche de m'envoyer quelque chose pour le premier numéro. Je serais désolé que ton nom ne brilla pas à côté du mien dans le premier sommaire. Passavant voudrait que dans le premier numéro paraisse quelque chose de très libre et d'épicé, parce qu'il estime que le plus mortel reproche que puisse encourir une jeune revue, c'est d'être putibonde. Je suis assez de son avis. Nous en causons beaucoup. Il m'a demandé d'écrire cela et m'a fourni le sujet assez risqué d'une courte nouvelle. Ça m'ennuie un peu à cause de ma mère, que cela risque de peiner, mais tant pis. Comme dit Passavant, plus on est jeune, moins le scandale est compromettant. C'est de Vidzavone que je t'écris. Vidzavone est un petit patelin à mi-flanc d'une des plus hautes montagnes de la Corse, enfoui dans une épaisse forêt. Passavant est un compagnon charmant. Il n'est pas du tout entiché de son titre. Il veut que je l'appelle Robert et il a inventé de m'appeler Olive. D'ici, ce n'est pas charmant. Il fait tout pour me faire oublier son âge et je t'assure qu'il y parvient. Il est lui-même d'une élégance raffinée, mais surtout il a très bon goût. Et beaucoup de choses qui me paraissaient supportables me sont devenues odieuses aujourd'hui. Nous étions partis avec l'intention de travailler beaucoup, mais jusqu'à présent nous n'avons guère fait que nous baigner, nous laisser sécher au soleil et bavarder. Il a surtout des opinions et des idées extrêmement originales. Il sait admirablement se servir des idées, des images, des gens, des choses. C'est-à-dire qu'il met tout à profit. Il dit que le grand art de la vie, ce n'est pas tant de jouir que d'apprendre à tirer parti. Au revoir, mon vieux. En octobre, tu me trouveras changé, moi aussi. Je prends chaque jour un peu plus d'assurance. Je suis heureux de te savoir en Suisse, mais tu vois que je n'ai rien à t'envier. Olivier. Bernard tendit cette lettre à Édouard, qui la lut sans laisser rien paraître des sentiments qu'elle agitait en lui. Tout ce qu'Olivier racontait si complaisamment de Robert l'indignait et achevait de le lui faire prendre en haine. Surtout, il s'affectait de n'être même pas nommé dans cette lettre. Il fit de vains efforts pour déchiffrer sous une épaisse rature les trois lignes écrites en post-scriptum et que voici. « Dis à l'oncle E que je pense à lui constamment, que je ne puis pas lui pardonner de m'avoir plaqué et que j'en garde au cœur une blessure mortelle. » Ces lignes étaient les seules sincères de cette lettre de parade, toutes dictées par le dépit. Olivier les avait barrées. Laissons passer l'été et assistons aux retrouvailles de nos protagonistes de retour à Paris. Plusieurs personnages se trouvent réunis dans la pension Védel-Azaïs, tenue par la famille de Laura. Bernard, qui n'a pas repris contact avec sa famille, y trouve refuge. Il partage sa chambre avec le petit Boris, qu'Edouard a réussi à ramener à Paris auprès de son grand-père. Croyant bien faire, Edouard trouve dans cette même pension un poste de surveillant à la Pérouse, qui en réalité est maltraité par les élèves. Dans le même temps, Olivier convie ses proches à fêter la sortie de sa revue littéraire, soutenue par le comte de Passavant. Bernard et Édouard décident d'y emmener Sarah, la jeune et séduisante sœur de Laura. Nous voici au seuil de cette soirée décisive. Après les malentendus de l'été, les cœurs se cherchent. Il avait été convenu que Bernard et Édouard passeraient prendre Sarah un peu avant 10 heures à la pension. Quelques instants plus tard, l'auto les déposait tous trois devant la taverne du Panthéon.
Saluons donc la naissance d'un astre neuf au firmament de nos lettres. Saluons sa lumière, celle de notre ami Robert de Passavant. Saluons enfin le très jeune et talentueux Olivier Molinier, infant des vrais poètes, qui voudra, comme nous tous, plonger au fond du gouffre. Enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau.
Le banquet était achevé, on avait desservi, mais la table restait encombrée de tasses de café, de bouteilles et de verres. Chacun fumait, l'atmosphère devenait irrespirable. Olivier s'était tenu près de la porte d'entrée de manière à pouvoir accueillir aussitôt ses amis. Les trois nouveaux arrivants avaient trop sobrement dîné pour se sentir au diapason de l'assemblée. Dans ces sortes de réunions, les retardataires s'expliquent mal ou trop bien l'excitation des autres. Ils jugent, alors qu'il ne s'y est pas de juger, et exercent, fût-ce involontairement, une critique sans indulgence. Du moins, c'était le cas d'Edouard et de Bernard. Quant à Sarah, pour qui dans ce milieu tout était neuf, elle ne songeait qu'à s'instruire, n'avait souci que de se mettre au pas. Bernard ne connaissait personne. Olivier, qui l'avait pris par le bras, voulut le présenter à Passavant. Il refusa. Passavant, cependant, força la situation et, s'avançant, lui tendit une main qu'il ne put décemment refuser. « J'entends parler de vous depuis si longtemps qu'il me semble déjà vous connaître. » Et réciproquement, dit Bernard, d'un tel ton que l'aménité de Passavant se glaça. Tout aussitôt, Passavant s'approcha d'Edouard. « Votre neveu m'avait fait espérer que vous viendriez, commença-t-il d'une voix douce et presque basse. Je m'en réjouissais car précisément, le regard ironique d'Edouard coupa le reste de sa phrase. Habile à séduire et habitué à plaire, Passavant avait besoin de sentir en face de lui un miroir complaisant pour briller. Il se ressaisit pourtant, n'étant pas de ceux qui perdent pour longtemps leur assurance, sans même reprendre haleine et changeant de ton brusquement. « Mais quel est cette délicieuse enfant qui vous accompagne ? » demanda-t-il en souriant. « C'est, dit Edouard, Mademoiselle Sarah Vedel, la sœur précisément de Madame Laura Douvy, mon amie. « Sarah, le comte de Passavant aspire à l'honneur de faire votre connaissance, » dit-il avec un sourire contraint. Tout en causant avec Passavant, Sarah souriait à Bernard qui était demeuré près d'elle. Ses yeux amusés brillaient d'un éclat extraordinaire. Bernard, qui dans l'obscurité n'avait pu la voir, était frappé de sa ressemblance avec Laura. C'était le même front, les mêmes lèvres. Ses traits, il est vrai, respiraient une grâce moins angélique, et ses regards remuaient, il ne savait quoi, de trouble en son cœur. Olivier, laissant causer ses amis, se rapprocha d'Edouard. « Que vous êtes gentil d'être venu. Il me tardait tant de vous revoir, mais j'aurais souhaité de vous revoir n'importe où ailleurs qu'ici. Cet après-midi, j'ai été sonné à votre porte, vous l'a-t-on dit ?» Il était tout heureux de s'exprimer aussi facilement, se souvenant d'un temps où son trouble le rendait muet. Il devait cette aisance, hélas, à la banalité de ses propos et aux libations. Edouard s'en rendait compte tristement. « Est-ce dans ce milieu que désormais vous allez vivre ?» lui demanda-t-il. « Oh, je ne me laisse pas entamer. En êtes-vous bien sûr ?» Cela était dit sur un ton grave, si tendre, si fraternel. Olivier sentit chanceler son assurance. « Vous trouvez que j'ai tort de fréquenter ces gens-là ? » ?»« Non, pas tous, peut-être. Mais certains d'entre eux, assurément. » Olivier crut qu'Edouard visait particulièrement Passavant et ce fut dans son ciel intérieur comme un éblouissant et douloureux éclair. Il aimait Bernard. Il aimait Edouard beaucoup trop pour supporter leur mésestime. Auprès d'Edouard, ce qu'il avait de meilleur en lui s'exaltait. Auprès de Passavant, c'était le pire. Il se l'avouait à présent. Et même ne l'avait-il pas toujours reconnu.
J'ai lu votre livre.
Déjà ?
Je n'ai fait que ça, vous savez. C'est très intéressant. Ils sont rares, je crois, les romanciers ou dramaturges qui ne se contentent pas d'une psychologie toute faite.
Merci, mais je crains que cette psychologie toute faite soit la seule qui contente le lecteur.
Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et le scandale, vous l'avez provoqué plusieurs fois.
André Gide.
Je l'ai provoqué parce que j'ai cru devoir le provoquer. Il faut que le scandale arrive. J'estimais qu'il était indispensable pour moi de dire des choses que j'étais seul à pouvoir dire.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Les enfants du diable habitent sous le sable, sur une île inventée, entre deux rives éloignées. Les enfants du diable y vont pour exhiber leurs rêves empoisonnés, leurs frustrations empilées. Les enfants du diable, par des jours agréables, gorgent leur verge de sang et s'enculent en chantant. Ils chantent leurs années folles sur des airs d'autre temps, avec des voix d'enfants pour effrayer leurs 30 ans. Du diable n'ont pas besoin de parler, ils savent à vous se donner sans jamais un mot souffler. Les enfants du diable sont faciles à effrayer et malgré leur passé ne savent pas pardonner. Ils posent sur leurs lèvres un coquillage nacré qui risque de vous couper si vous osez les embrasser. Ils cachent dans leurs mains un couteau bien affûté qui risque de vous tuer si vous osez les aimer. Enfants du diable, partent et reviennent sur cette île comme des chiens morts-vivants enchaînés à leur chenil. Les enfants du diable restent bien souvent perplexes face aux joies indésirables des grands sentiments complexes. Les enfants du diable boivent des alcools violents pour voler toujours plus haut comme le font les goélands. Ils passent d'un corps à l'autre sans se poser de questions. Ils marchent, parfois rampent, dépendamment des saisons. Une seule règle règne sur cette île inventée: ne jamais laisser son cœur.
Ce livre s'achèvera brusquement, il ne doit pas se boucler mais s'éparpiller, se défaire, prévenait Gide dans son journal. Si les malentendus se dissipent bientôt entre Olivier et ses amis, l'auteur nous réserve en effet une fin abrupte. Pour Olivier comme pour Bernard, la soirée à la taverne du Panthéon se prolonge dans des bras aimés, ceux d'Édouard pour Olivier, enfin, ceux de Sarah pour Bernard. Mais laissons les deux amis à leurs émois tout neufs et renouons avec l'intrigue qui clôt brutalement les faux-monnayeurs. On se souvient de Boris, le petit-fils adoré du vieux Lapérouse. Si Édouard croit avoir bien agi en installant l'adolescent à Paris auprès de son grand-père, il ignore que le jeune garçon est entouré de camarades malveillants face auxquels Lapérouse est bien impuissant. Emmené par un dangereux jeune homme, guéri d'anisol, le funeste trio compte parmi ses membres le jeune frère d'Olivier, Georges, que l'on a croisé au début du livre.
On va faire une confrérie.
Avec qui?
Bah, nous trois, plus Boris.
T'es dingue ou quoi?
Pas du tout, il fera ce qu'on voudra. Faut qu'on se trouve un nom.
La confrérie des hommes forts.
D'accord. L'homme fort ne tient pas à la vie. Ça vous va comme devise?
Faudra un tatouage, au bras droit.
Non, un engagement solennel, ça fera l'affaire. Par contre, celui qui canne, il est rejeté définitivement. C'est un traître.
Qui canne à quoi?
Il y aura une sorte d'épreuve. Tirez au sort. Bien sûr, on fera en sorte que ça tombe sur Boris.
Quoi comme épreuve?
Bah, vous avez dit que j'avais vu un pistolet dans la chambre du père Lapérouse.
Je marche pas. Mais t'es con, c'est de la blague.
Si tu veux pas, t'as qu'à le dire. On n'a pas besoin de toi. Mais tu le dis maintenant, parce qu'une fois que t'auras signé...
Entre toute attente, les faux monnayeurs, ce sont eux. Des fils de bonne famille, avides de transgression. Et quand ils convainquent le fragile Boris de mettre sa vie en jeu, le drame couve. Voici donc ce tragique dénouement. Le plus monstrueux dans cette abominable histoire, c'est peut-être cette comédie d'amitié que Georges, le jeune frère d'Olivier, consentit à jouer. Il affecta de s'éprendre pour Boris d'une affection subite. Et dès les premiers mots, Boris, qui bramait après un peu d'estime et d'amour, fut conquis. « Moi, mon petit, je voudrais bien, disait Georges, le bras tendrement passé autour du cou de Boris. C'est Guéry d'Anisol qui ne veut pas de toi. Il dit que tu flancheras, que tu te défileras dès la première épreuve. On verra bien. C'est vrai que tu oserais tirer au sort? Oh, parbleu! Mais tu sais à quoi ça engage. » Boris ne savait pas, mais il voulait savoir. Alors Georges lui expliqua la devise de la confrérie des hommes forts. L'homme fort ne tenait pas à la vie. Boris sentit un grand chavirement dans sa tête. Mais il se raidit et cachant son trouble. « C'est vrai que vous avez signé ?»« Tiens, regarde. » Et Georges lui tendit la feuille sur laquelle Boris put lire leurs trois noms. Guéridanissol, Georges, Fifi. Au-dessous de la signature des trois hommes forts, sur la feuille maudite, Boris inscrivit son nom d'une grande écriture appliquée. Les trois autres délibérèrent. Bien sûr, on ne chargerait pas le pistolet dérobé au vieux Lapérouse. Du reste, on n'avait pas de cartouche. Non, Guéridanissol ne chargerait pas le pistolet. Il n'était plus besoin. La cartouche que Lapérouse y avait mise un jour, Lapérouse ne l'avait pas enlevée. C'est ce que Guéridanissol avait constaté, mais qu'il s'était gardé de dire à ses deux complices. On mit les noms dans un chapeau, quatre petits billets semblables et uniformément repliés. Guéridanissol, qui devait tirer, avait eu soin d'inscrire le nom de Boris en double sur un cinquième papier qu'il garda dans sa main. Et comme par hasard, ce fut celui-là qui sortit. Boris eut le soupçon que l'on trichait, mais il se tut. Il savait qu'il était perdu. On convint de l'heure et du lieu, la salle d'études. Cela devait se passer sous les yeux de tous les élèves, ça leur emboucherait un coin. Le lendemain soir, la cloche avait rassemblé les élèves de la pension. Sur le même banc étaient assis Boris, Guéridanissol, Georges et Philippe. Jamais l'étude n'avait été aussi calme. Soudain, Boris se dressa et s'avança jusqu'à la place convenue, à droite de la chaire. Il marchait à pas lents, comme un automate, le regard fixe. Sa main droite avait saisi le pistolet, mais le maintenait caché dans la poche de sa vareuse. Il ne le sortit qu'au dernier moment. Lapérouse se pencha, et d'abord il ne comprit pas ce que faisait son petit-fils, encore que l'étrange solennité de ses gestes fût de nature à l'inquiéter. De sa voix la plus forte et qu'il tâchait de faire autoritaire, il commença. « Monsieur Boris, je vous prie de retourner immédiatement à votre... » Mais soudain, il reconnut le pistolet. Boris venait de le porter à sa tempe. Lapérouse comprit et sentit aussitôt un grand froid, comme si le sang se figeait dans ses veines. Il voulut se lever, courir à Boris, le retenir, crier. Une sorte de râle rauque sortit de ses lèvres. Il resta figé, paralytique, secoué d'un grand tremblement. Boris ne s'affaissa pas aussitôt. Un instant, le corps se maintint, puis la tête, retombée sur l'épaule, l'emporta. Tout s'effondra.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Benjamin Vignal. Elle a été préparée par Estelle Gaple, Léla Kourou-Séliquois, Perrine Malinge, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.